Radio Starbit.
One edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
C'est un honneur de coudre sur cette machine. J'adore mon travail, c'est le travail de ma vie.
Étonnante, fascinante, Corée du Nord, est-ce qu'ils savent comment nous les percevons, ces Coréens du Nord? Est-ce qu'ils savent comment nous vivons réellement? Est-ce qu'ils croient tout ce que leur dit leur président? Est-ce qu'ils savent que le président américain, leur grand ennemi, va rencontrer Kim Jong-un? Toutes ces questions, nous pourrons les poser à Élise Delève qui revient de Pyongyang. Elle a de la chance. Florence Paracuelo, c'est Sous les radars, nous raconte une horrible massacre d'enfants. Ça se passe au Pérou. Un massacre tout juste découvert, calmez-vous, ça se passait au 15e siècle. On parle aussi de crème solaire à Hawaï, ce qui n'a rien à voir. 18h50, la carte blanche. Des correspondants de France Inter aux États-Unis avec Grégory Phillips et la suite de cette affaire dont vous vous souvenez peut-être, ces jeunes noirs expulsés d'un Starbucks alors qu'ils n'avaient strictement rien fait. Nous sommes aussi à Beyrouth avec une fin de campagne législative. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. On parle de boulettes en Suède ce soir, mais avant ce que vous ne verrez pas au Festival de Cannes qui s'ouvre dans moins d'une semaine maintenant, c'est Netflix. Alors question, est-ce que les plateformes défont ou font-elles le cinéma mondial? On y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La semaine prochaine, donc à cette heure-ci, le Festival de Cannes sera lancé et son côté tapis rouge, montée des marches, aura fait oublier cette polémique qui effleurait déjà l'an dernier, qui s'est soldée par un clash cette année, la présence des films Netflix. Et surtout, au-delà de leur présence, la question qu'on en profite pour poser ce soir, c'est Netflix, mais toutes les plateformes, la VOD, la vidéo à la demande, veulent-elles la mort des salles, le combat de Cannes, qui est de refuser un film qui ne sortira pas en salle? Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde ou une scène réservation? Est-ce que le cinéma mondial est mis à mal par ces plateformes qui imposent de nouvelles règles ou tout le contraire? Bonsoir Pascal Le Chevalier.
Bonsoir.
Vous êtes consultant chez WhatsApp, notamment spécialisé sur les nouveaux usages médias. Vous bloguez sur zdnet.fr. Et Nicolas Brigaud-Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes exportateur international de films, vous êtes producteur de films en France aussi, directeur et cofondateur du groupe Playtime. Je vais vous poser la question à tous les deux d'abord, maintenant que cette polémique va peut-être remonter un peu à l'ouverture du festival, mais nous a bien occupé les semaines précédentes. Est-ce qu'on est du mauvais côté de l'histoire à Cannes quand on s'arc-boute sur l'histoire de la sortie en salle en l'instaurant comme un prérequis ou pas? Commence avec qui, Nicolas Brigaud-Robert?
Écoutez, j'ai suivi avec attention comme professionnel, puisque j'ai des films qui vont être diffusés. Mais en même temps, je comprends l'attitude de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure, parce qu'ils sont dans une attente. Ils sont dans une attente d'une redéfinition, en fait, de la question de qu'est-ce que le cinéma? Et le cinéma, ça a été une combinaison de quatre choses pendant très longtemps. Un dispositif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voyait en salle, une technique, on projetait et on fabriquait sur un support film, une esthétique, on racontait des histoires en plus ou moins deux heures, et un modèle économique où il y avait un intéressement des producteurs au box-office et un préfinancement en France des chaînes de télé. La diffusion en télé arrivait après la sortie salle. Donc voilà, ça c'était les éléments. Aujourd'hui, ces quatre éléments explosent.
C'est la préhistoire un peu.
Ces quatre éléments, en tout cas, ont explosé sans vraiment qu'on prenne le temps de se poser la question, de se reposer la question de qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui? Est-ce que est confronté, parce qu'ils sont à l'avant-garde et dans le calendrier même, ils sont obligés de prendre une décision, peut-être dans l'urgence, même si... C'est vrai que ça couvait depuis un moment. Ils sont obligés de se poser la question. En attendant que cette définition professionnelle soit redéfinie entre les professionnels, eh bien, je pense qu'ils prennent simplement la décision d'attendre.
Alors, Pascal Le Chevalier, nous, la réponse, on l'a. Qu'est-ce que le cinéma pour l'instant, effectivement? C'est une salle. D'abord, une salle, en fait. Sauf que on est un peu les seuls, en fait, si on regarde nos voisins européens, voire au-delà, on est les seuls à avoir cette définition-là du cinéma, finalement, non?
Alors, en fait, le problème, c'est que c'est souvent les professionnels qui écrivent et qui font les définitions. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les usages sont en train de changer, et pas qu'à l'international, en France en partie, et puis chez tous nos voisins européens. Et aujourd'hui, le public, il a envie de vivre des expériences avec des films, qualifiés de cinéma ou pas, partout, à tout moment, dont la salle. Certains grands films ont un territoire d'expression, forcément dans une salle, parce qu'une expérience sociale, un partage, une mise en scène, un écran géant qui fait que la salle se justifie. Et puis il y a d'autres films, d'autres œuvres qui ont besoin d'être exposées différemment. Et les plateformes qui n'existaient pas il y a 10 ans, je rappelle que Netflix fête juste ses 10 ans, puis il n'y a pas que Netflix, il y a d'autres sites évidemment, aujourd'hui proposent une expérience pour des usagers qui sont friands.
Mais parce qu'on a l'impression que Berlin, le festival de Berlin a réglé cette question puisque les portes sont ouvertes aux plateformes. Venise a réglé cette question puisque le festival est ouvert aux plateformes. Sundance a réglé cette question puisque le festival est ouvert aux plateformes. Donc est-ce qu'on est le village gaulois ?
Et Toronto aussi. Absolument.
Donc est-ce qu'on est le village gaulois, nous, en fait ?
Écoutez, on a la chance aussi, il ne faut pas oublier que notre système jusqu'à présent, autorégulé mais encadré par l'État, permettait de produire 250 à 300 films par an. Donc on avait un système qui marche. Et paradoxalement, plus notre système était dans ce cadre ancien, vertueux, moins les gens avaient envie de le changer. Et c'est vrai qu'on a pris du retard dans la redéfinition de ce qu'est le cinéma, en particulier parce qu'on avait une production aussi riche.
Mais vous, le producteur, si vous voulez distribuer votre film à l'étranger, est-ce que vous avez plus de chances en vous accoquinant avec une plateforme ou en vous accoquinant avec des distributeurs, en fait ? Si vous voulez exporter votre cinéma, comment ça se passe ? Où est-ce qu'on a le plus de chances d'être vu à l'extérieur ?
Alors écoutez, c'est une question tout à fait pratique qui se passe et qui va se passer dans les quelques jours qui viennent lorsque nous serons à Cannes. Nous avons souvent, aujourd'hui, enfin souvent depuis les 2-3 ans, la possibilité de choisir entre une distribution à l'ancienne où les films sortiront en salle dans peut-être quelques territoires, mais sortiront en salle, et c'est parfois très important pour un certain nombre de cinéastes et de producteurs. Et de l'autre côté, une diffusion mondiale sur des plateformes. Alors peut-être que le film sera plus vu, le problème c'est qu'on ne sait pas. Comme vous le savez, les plateformes ne communiquent pas sur leur taux d'audience, on tuera le taux de consommation. Donc, c'est un pari. C'est vrai que financièrement, notre métier, c'est aussi de faire les additions et de regarder s'il vaut mieux sortir dans 3-4 pays, dans quelques salles, avec sans doute des petits prix, ou au contraire, choisir une diffusion mondiale avec une forme d'exposition qui n'est pas la même, avec un contrôle qui n'est pas le même, avec une stratégie de promotion et de festival qui n'est pas la même, puisque Netflix, même si vous l'avez souligné, certains festivals acceptent les films qui viennent des plateformes, Netflix et les plateformes n'ont pas non plus ce métier qui est de savoir comment on promeut un film, comment on va jusqu'au, par exemple, jusqu'aux Oscars.
Mais d'ailleurs, on ne le promeut pas, en fait. Hein, on le met sur la plateforme et puis advienne que pourra, en même temps.
C'est pas tellement vrai, parce qu'aujourd'hui, Netflix dépense...
Parce que c'est pas un peu un yaourt en supermarché, finalement.
Un petit peu, oui. Mais Netflix dépense 2 milliards de dollars par an en promo. Alors ça touche évidemment des films, des séries, des documentaires. C'est un mode de distribution qui est complètement nouveau. Et d'ailleurs, Ted Sarandos, qui est le patron des contenus de Netflix, s'amuse de sa bataille avec Thierry Frémaux en disant « Demain, la norme sera cette distribution directe. » Parce qu'aux États-Unis, ce que vous n'avez pas souligné, c'est qu'on n'est pas dans un cadre réglementaire, mais contractuel. Ce qui permet à chaque producteur de mieux choisir son mode de distribution, puisque je rappelle qu'en France, ce qui freine aussi l'exposition des films au Festival de Cannes, c'est que si vous décidez de présenter un film à Cannes, vous ne pourrez le mettre sur votre plateforme de SVOD alors que vous l'avez financé ou acheté que 36 mois plus tard.
Chronologie des médias, là pour le coup, ça aussi c'est une spécificité française, jusque-là fonctionnait.
Qui justement permettait de fabriquer 250 à 300 000 films par an. Je crois que cette redéfinition de qu'est-ce que le cinéma va passer, à mon sens, par les talents, par les auteurs, par les réalisateurs. C'est eux qui sont en train de faire bouger les lignes. C'est moins, je dirais, les gens d'argent que les gens de l'art. Aujourd'hui, vous avez des réalisateurs, des scénaristes qui veulent raconter des histoires en plus de 2 heures, en 6, en 12. Et ce qu'on voit arriver dans la télévision, dans cette forme nouvelle de narration, c'est des gens qui avant fabriquaient des histoires en 2 heures et qui sortaient en salle, oui. Et aujourd'hui, ils se disent, moi, si je peux raconter une histoire parce que je pense qu'elle mérite plus de temps et qu'ici, elle doit changer de support, qu'elle change de support.
Ça veut dire que c'est le réalisateur ou le metteur en scène qui doit avoir la main sur ce que devient son film, parce que jusque-là, c'est pas lui qui a la main, en fait, sur la manière dont il est distribué. Je vous pose la question parce que Spielberg a dit, c'était il y a quelques jours, je crois, un film Netflix, c'est pas un film, c'est un téléfilm. Donc au moins comme ça les choses elles sont pour lui c'est carré, en fait ça rentre pas dans cette boîte là. Ça veut dire, est-ce que c'est eux qui doivent décider de cette diffusion là? Est-ce que c'est possible de donner la main à ceux qui fabriquent dans ces cas là
Je pense qu'ils ont déjà la main. Quand je vous dis qu'on voit arriver des gens de cinéma dans la télévision alors qu'il y a encore quelques années ils auraient même pas osé avouer qu'ils la regardaient.
Commencer par Scorsese.
Voilà.
Là,
donc aujourd'hui, je pense que il y a un continuum qui n'existe pas avant. Je pense que c'est eux qui sont en train de redéfinir, et on passera sa carrière en tant que producteur, en tant qu'artiste, en faisant des histoires à 2 heures qui sortent en salle et qui vont dans certains festivals, et des histoires plus longues qui sont diffusées sur des plateformes ou sur, on a oublié le mot, télévision, ça existe aussi, ouais, sur les télévisions.
Ouais, qui ne sont pas non plus d'ailleurs les carrés Gervais qu'on pouvait avoir autrefois, non, qui étaient des trucs tout petits et moins pratiques. Est-ce qu'on peut, Pascal Le Chevalier, donner quelques chiffres est-ce qu'on fréquente moins les cinémas depuis que la VOD et les plateformes ont pris une grande ampleur? Pas seulement chez nous, évidemment, je voudrais au contraire qu'on s'éloigne et qu'on regarde un peu le monde.
Je pense qu'on a 2 exemples qui sont symptomatiques, parce qu'aujourd'hui, le cinéma mondial progresse du fait de l'intégration de la Chine dans les chiffres. Donc forcément, ça donne un gisement de clientèle et de spectateurs très important. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du cinéma, d'ailleurs, c'est un chiffre qui est extrêmement intéressant. Le cinéma est aux alentours de 11 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires de Netflix. Pour les entrées salles aux États-Unis, qui ont plutôt tendance à stagner ou à faire moins 2, moins 3 de manière régulière. En France, les entrées salles sont stables et n'ont pas tendance à trop bouger. D'une année sur l'autre, ça va dépendre un peu de la programmation. S'il y a un grand blockbuster français, une grande comédie qui va faire plus de 10 millions d'entrées. Mais globalement, le cinéma ne souffre pas actuellement, ni la salle d'ailleurs, de l'arrivée de ces nouvelles plateformes et de ces nouveaux modes de distribution.
Nicolas Brigaud-Robert, vous l'avez souligné, il y a eu jusqu'à présent les télévisions qui finançaient, il y a eu aussi un certain nombre d'opérateurs téléphoniques par exemple en ce moment, etc. Est-ce qu'on peut imposer, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est dans l'air, à Netflix et à d'autres, à Amazon, à Hulu et aux autres, de réinvestir une partie de leur chiffre d'affaires dans la production d'œuvres locales et de le faire même à l'échelle européenne, c'est-à-dire avec quelque chose qui fonctionnerait et qui serait à grande échelle? Est-ce que c'est possible à imposer ça? Est-ce qu'on en discute déjà ou pas?
Les producteurs qui sont bien sûr aux premières loges parce que ce financement leur est attribué sont bien sûr pour nombre d'entre eux militants d'une contribution disant voilà il faut absolument que les diffuseurs soient les financeurs. C'est été la règle du modèle français jusqu'à présent. Il me semble que je ne veux pas revenir là-dessus, mais il me semble que tant qu'on n'a pas redéfini de qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qu'est la définition, quelle est cette œuvre qu'il faudrait que les diffuseurs Netflix ou autres financent pour nous. Tant qu'on n'a pas répondu ça, on a un vrai problème de légitimité à légiférer. Et je pense qu'on devrait voir réapparaître grâce à cette crise sur la définition du cinéma, on va voir réapparaître un débat, je pense, salutaire sur la politique culturelle de l'État. Qu'est-ce qui mérite d'être financé et qu'est-ce que c'est la diversité et en quoi elle est importante ou pas pour notre secteur.
Et peut-être que l'une des difficultés, c'est que Netflix n'a besoin de personne par ailleurs et peut tout financer d'un coup. C'est ce qu'ils font sur les séries télé, c'est ce qu'ils font aussi sur les films qu'ils produisent aujourd'hui, non?
Alors justement, à ce propos, il y a la directive Service Média Audiovisuel doit être votée au mois de septembre, dans lequel le texte prévoit justement que les plateformes soient plus régulées, en particulier avec des dispositifs qui les obligeront à avoir un pourcentage d'œuvres européennes et françaises à exposer. Et dans le même temps, Netflix, qui sont extrêmement habiles aussi pour manier la politique.
Ils ne le jouent pas, ce jeu, objectivement, ils ne le jouent pas tellement.
Non, ils ne le jouent pas, mais ils ont annoncé qu'ils allaient investir 1 milliard de dollars dans les contenus européens. Et ça, tout de suite, ça réveille tous les producteurs indépendants qui se disent, quelque part, c'est un nouveau guichet qui risque d'arriver, et ce guichet, on ne va pas non plus le laisser passer. Et là, je remets le débat sur la chronologie des médias, sur le financement du cinéma, et sur tous les sujets qui sont franco-français, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas avoir une bonne discussion avec Netflix et peut-être arriver à générer un line-up sur 2-3 ans, que de se protéger. Encore une fois, le monde bouge, le monde évolue, et on est obligé de le constater, de s'y adapter. Et aujourd'hui, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à l'industrie, à la profession, c'est de rester un peu les deux pieds dans le même sabot.
Est-ce qu'il faut faire voler la chronologie des médias que nous sommes effectivement les seuls à avoir? C'est notre précaré à nous, ça a sauvé beaucoup de choses aussi. Est-ce qu'il faut la faire voler en éclats parce qu'on n'a plus le choix?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus. Je pense qu'il y a un consensus des professionnels pour faire évoluer la chronologie des médias. En revanche, je pense qu'il
faut... Nous, c'est 3 ans avant le streaming, hein. C'est
36
super
mois,
long.
Ouais. 36 mois. Je pense qu'il y a un consensus pour faire évoluer la chronologie des médias. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, on va voir se raccourcir ce délai. En revanche, encore une fois, le débat sur la diversité, parce que Netflix vienne et investisse 1 milliard, c'est formidable. Mais sur quoi? Et c'est là où la politique culturelle encore doit reprendre la main. Parce que autant, vous l'avez compris, je suis plutôt favorable à un une redéfinition du cinéma, autant je soutiens absolument une politique culturelle qui favoriserait et qui garantit une certaine diversité de l'offre pour le spectateur.
Eh bien, écoutez, vous savez à qui on va donner le mot de la fin ? Au patron de Netflix, qui s'appelle Reed Hastings, ça tombe à l'instant, qui a dit aujourd'hui que la plateforme faisait parfois des erreurs et qu'avec le Festival de Cannes, dit-il, où aucun de ses films n'est sélectionné, eh bien, il s'est mis dans une situation délicate, c'est ce qu'il dit lui-même. Donc comme quoi, effectivement, il sait aussi, lui, que l'aura et la plateforme in vivo que représente le Festival de Cannes peut avoir du sens pour une énorme machine comme la sienne. Merci beaucoup, merci Nicolas Brigaud-Robert et merci à vous Pascal Le Chevalier. On a
merci
d'en parler. Le festival, ça commence mercredi prochain et on en parlera ici aussi, bien sûr.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Corée du Nord avec Élise Delève qui en revient, qui nous racontera ce qu'elle a vu sous les radars au Pérou, à Hawaï, avec de la crème à bronzer, notamment la carte blanche des correspondants de France Inter. Ce sera aux États-Unis et aussi à Beyrouth avec Omar Waman et puis Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir.
L'édito 18h55, qu'est-ce que c'est que cette histoire de boulettes en Suède ?
Eh bien, c'est culture camp chez l'équipe et chez les Vikings. Tout est géopolitique, vous verrez, même les boulettes de viande.
Allez, le tour de la planète continue dans Un jour dans le monde. On passe par Los Angeles. Voici Hills. Today is the day sur France Inter. Sur France Inter, Today is the day. Et Florence Paracoulos est là parce que Today is the day pour elle aussi. Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakivo Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Florence, c'est au Pérou que vous voulez nous emmener d'abord et c'est pas un très beau voyage que vous nous proposez.
Non, direction la côte nord du Pérou, au bord du Pacifique. Là-bas, des archéologues ont découvert les traces du plus grand sacrifice d'enfants jamais mis au jour. 140 enfants et 200 jeunes lamas ensevelis sur une falaise balayée par les vents, tout près de Chan Chan, l'ancienne capitale de l'empire Chimú qui précéda les Incas. 140 enfants de 5 à 14 ans dont les restes portent la trace de ce qu'on leur a fait subir. C'est Gabriel Prieto, l'un des archéologues du site, qui raconte. Ils ont tous une entaille au niveau du sternum, ce qui montre qu'on leur a probablement ouvert la cage thoracique pour retirer leur cœur. Ils appartiennent au peuple Chimú, une civilisation qui s'est développée entre le 10e et le 15e siècle. Ce sacrifice, en l'occurrence, Fabienne, remonte aux années 1400, les lamas avec les enfants pour transporter leur âme vers l'au-delà. Mais pourquoi ? Pourquoi assassiner ce que les hommes ont de plus cher, c'est-à-dire leurs enfants ? Les civilisations précolombiennes pratiquaient les sacrifices humains, on le sait, mais c'était plutôt avec des adultes qui étaient mis à mort. Là, C'est sans doute un phénomène climatique qui est à l'origine de ce carnage. En étudiant la boue autour des squelettes, les scientifiques ont découvert qu'elle provenait sans doute d'inondations et de fortes pluies qui se seraient abattues sur la côte à l'époque, ce qui semble correspondre à un phénomène El Niño. Les Chimous ont donc sacrifié leurs enfants dans l'idée d'apaiser les dieux et la nature.
Allez, on pousse un peu plus à l'ouest et beaucoup plus détendu aussi, Florence, cap sur Hawaï.
Après cette épouvantable histoire de sacrifice d'enfants, vous aurez peut-être envie de vous détendre sur une plage d'Hawaï.
Voilà, c'est tout ce que vous avez trouvé pour illustrer, sinon...
Oui, mais c'était pour vous détendre.
Oui, oui, c'est
vous
bien.
Vous êtes bien détendu.
Je suis détendu, allez-y.
Eh bien qu'il vous en cuise, Fabienne, parce que l'État d'Hawaï s'apprête à interdire les crèmes solaires qui contiennent de l'oxybenzone et du méthoxycinamate d'éthylexyl.
Mais moi, j'en prends jamais.
C'est-à-dire presque toutes les crèmes du marché, Fabienne, donc il y en
toutes
a sûrement
naturel.
Dans la vôtre, parce que ces deux composants, figurez-vous, ravagent les fonds marins et les coraux. Quand vous vous baignez avec de la crème, il y a une pellicule grasse qui se répand à la surface. Et cette pellicule, elle finit par tomber. Comme tous les messages de santé publique depuis 25 ans nous expliquent qu'il faut qu'on s'enduise de crème indice 50 pour pas attraper de cancer de la peau, toute cette crème qui tombe, ça donne 14 000 tonnes de crème au fond des océans. Donc prière de trouver des produits non polluants et bon courage, Fabienne, selon que choisir. Même les crèmes solaires bio font des dégâts sur les fonds marins et en plus elles protègent souvent moins bien du soleil. Donc les vacances à Hawaï, réfléchissez-y à deux fois.
Ben, vous faites bien de me le dire, parce que j'étais à deux doigts de partir. Là.
Alors après, je ne sais pas si des policiers viendront sur les plages
pour vérifier
la composition de votre crème.
Allons à Hawaï pour vérifier. Allez, Florence, à
reportage.
Demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est dans un supermarché que je vous fais entrer là, pas n'importe où, hein, dans un supermarché de Pyongyang, en Corée du Nord. Est-ce que vous entendez ? Ce sont des chants, des mots patriotiques. On va vous expliquer tout ça. Bonsoir, Élise Delève.
Annyeonghaseyo.
Voilà, pareil. Vous en revenez de Corée du Nord. Vous avez bien appris à dire bonjour. Vous avez de la chance d'avoir vu cet endroit aussi fermé que fascinant, dont on parle évidemment abondamment depuis plusieurs mois, ici et ailleurs. C'est pas fini. Vous allez être nos yeux. Alors, d'abord, Élise, racontez-nous un peu... Ce qui frappe quand on arrive d'abord à Pyongyang, nous ce qu'on imagine ce sont d'énormes bâtiments, des endroits extrêmement austères, quasiment vides. Est-ce que c'est une image d'Épinal ou est-ce que c'est ça effectivement Pyongyang ?
Il y a des immeubles austères, il y a une ambiance assez froide, il y a des grandes avenues, mais il y a plus de monde et plus de circulation qu'on peut penser. Moi j'ai vu énormément de voitures, de bus, de tramways. Ce qui m'a surpris. Quant aux bâtiments publics, effectivement, ce sont des gros blocs de béton avec des petites fenêtres, avec les portraits des deux leaders passés, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Ça, c'est ce qui frappe aussi. Et puis, il y a une ville moderne qui est en train de se construire. J'ai vu notamment la rue des scientifiques. C'est une rue qui a été construite en 2015, en 8 mois. 40 bâtiments en 8 mois. Et là, ce sont des designs plutôt contemporains, avec des bâtiments... Il y a trois couleurs principaux. Bleu, vert et brique.
Élise, vous allez nous prendre par la main, parce que je voudrais que vous nous emmeniez en même temps que vous visiter. D'abord... Qui décide pour vous ce que vous avez le droit de voir quand vous y allez ?
Alors au préalable, j'ai négocié pendant un an et demi pour pouvoir faire ce voyage. J'ai donné un thème principal qui était la vie quotidienne des Nord-Coréens. Et ce sont les Nord-Coréens et un intermédiaire, un grand spécialiste de la Corée du Nord qui m'a aidé pour ce voyage, qui ont concocté le programme.
Ça veut dire qu'on vous suggère des choses. On vous dit, on va vous montrer un magasin, on va vous montrer une usine, on va vous montrer une maison. On vous dit ça en fait.
Ah, on me donne un programme. Voilà. Alors le premier soir, il est en coréen, ce qui n'est pas facile pour négocier. Puis le deuxième jour, il arrive en anglais. Et effectivement, oui, ce sont des lieux, qui ont une liste de lieux, mais énormément plus que ce que j'avais pensé. Il y a 4, 5, 6 lieux par jour, et c'est effectivement mon traducteur et son chef qui décident.
On va écouter juste une dernière question. Vous avez soumis vos questions ou pas ?
Oui, j'étais obligée, pour les micro-trottoirs, de dire avant à mon traducteur quelle était la question. Mais quand je voyais des officiels, j'ai vu un économiste et un historien, là non, je pouvais poser les questions que je voulais.
Et on n'a pas réécouté ce que vous avez monté derrière, par
pas
définition,
du tout.
Puisque vous l'avez monté ici, par ailleurs.
Pas du tout, et on n'a pas vérifié ni les photos ni les vidéos.
Allez, première étape, allons-y, vous nous emmenez tout premier lieu de votre visite.
Que ce soit dans une école, dans une usine, dans un lieu historique, cela se passe toujours de la même façon pour une visite en Corée du Nord. Le minibus qui nous emmène arrive au point de rendez-vous à l'intérieur. Mon traducteur et son chef, ils sont toujours deux. Et lorsqu'on arrive, systématiquement, on est accueilli par une femme. Elle sera notre guide. Son rôle, mettre en valeur ce que les Kim, grands-pères, pères et petits-fils, ont fait pour le lieu que nous visitons. Car on me montre uniquement les lieux où l'un des trois dirigeants est venu, la crème de la crème en quelque sorte. La guide nous explique quels conseils les leaders du régime ont donné quand ils sont venus ici, mais ça va de la hauteur du plafond au changement des machines. Nous voici dans une usine qui fabrique des chaussures de sport. Une usine qui s'étale sur plusieurs bâtiments, plusieurs étages et qui conçoit, me dit-on, 1,5 million de chaussures par an. Le responsable de l'atelier nous montre fièrement la toute nouvelle machine créée en Corée du Nord qui coupe la gomme. Elle ressemble à une machine des années 70 pour moi. Une ouvrière s'assure que les semelles sont bien imprimées pendant qu'un homme découpe des figurines pour décorer les chaussures des enfants. Et dans la salle de couture, des dizaines d'ouvrières, un bandana violet sur la tête, sont au travail. Elles ont toutes un triangle rouge au-dessus de leur machine à coudre verte. Elles ont été récompensées parce qu'elles ont bien travaillé. Ici, le mérite s'affiche pour donner l'exemple. Parmi ces couturières, Kim Yeon-ho, elle travaille ici depuis 10 ans après avoir fait une carrière d'officier dans l'armée.
Quand je vois ce prix, cela me donne envie de mieux travailler, de travailler plus. C'est un honneur de coudre sur cette machine. J'adore mon travail, c'est le travail de ma vie.
Plus on travaille, plus on est payé, mais on ne saura pas combien. C'est une des questions, Fabienne, dont je n'ai jamais eu la réponse. Je n'ai pas pu savoir quel était le salaire moyen d'un Nord-Coréen. On m'explique que le système est trop compliqué parce que beaucoup de choses sont gratuites. L'école est gratuite, les transports sont gratuits, la santé est gratuite et même les logements sont gratuits, fournis par le régime en fonction du travail accompli.
Élise, on va poursuivre notre traversée en Corée du Nord. Je voudrais d'abord que j'ai une curiosité d'abord. Vous êtes arrivée pile au moment de la rencontre entre les deux dirigeants coréens. Est-ce qu'ils le savaient, nos amis nord-coréens? Et surtout d'eux, est-ce qu'ils savent que leur président va rencontrer Donald Trump ou pas du tout?
Alors non, ils ne savaient pas que le sommet avait lieu. Alors les images avaient fait le tour du monde le vendredi, le jour du sommet. Eux l'ont appris le samedi. Quant à Donald Trump, je n'ai pas pu en parler avec eux. Et quand j'ai essayé de poser des questions sur le président américain, tout de suite on m'a dit « Non, non, vous savez très bien ce qu'on pense de lui ».
Voilà, Élise, on continue notre plongée dans la vie de tous les jours, puisque nous y sommes, tiens, journée de congé, qu'est-ce qui se passe une journée de congé en Corée du Nord?
Eh bien, ils ont une seule journée de congé, le dimanche, et deux semaines de vacances par an. Pendant ma visite, j'ai vu de nombreux centres de loisirs, des zoos, des fêtes foraines, des cirques. Tout avait été rénové ou construit au début des années 2010. Dans un centre aquatique d'une vingtaine de piscines, voici ce que la guide m'explique.
Pour que notre peuple profite d'une vie heureuse, notre suprême leader Kim Jong-un a fait construire de nombreux lieux comme cette piscine.
Cette politique de l'amusement est un excellent outil de propagande pour s'attirer le soutien de la population, mais c'est aussi un moyen, Fabienne, de satisfaire un peuple qui a subi une très très grande famine il y a quelques années.
Alors, ce qu'on voit beaucoup dans les images aussi, qui sont peut-être aussi nos images d'Épinal, hein, Élise, ce sont des supermarchés avec des rayons vides.
Alors
est-ce
moi,
que vous avez vu des rayons pleins?
Moi, je suis allée dans un supermarché de 4 étages, l'équivalent des Galeries Lafayette. À l'entrée de ce magasin, un écran diffuse des clips patriotiques, interdiction de prendre des photos pour raison de sécurité commerciale. Le supermarché ressemble à n'importe quel supermarché. Les rayons sont pleins à craquer. Il y a quasi exclusivement des produits nord-coréens. Là encore, la fibre patriotique est dans chaque interview. Kim Sun-jun, mère au foyer, vient une à deux fois par semaine. Elle pousse un caddie rempli de sucreries, bonbons, gâteaux et boissons pour son fils.
Les produits coréens sont faits en fonction des besoins des Coréens. Ils sont produits en prenant en compte notre santé et notre corps. Donc c'est meilleur que les produits étrangers pour nos enfants et pour nous.
Alors en fouillant bien, hein, j'ai trouvé des produits étrangers, surtout chinois. C'est le partenaire commercial de la Corée. J'ai vu aussi des produits européens, notamment de l'huile d'olive d'Italie et d'Espagne. Ces produits ne sont pas censés entrer en Corée du Nord en raison des sanctions de l'ONU, mais ils ont vraisemblablement été importés via la Chine.
Élise, est-ce que les Nord-Coréens Coréens qui vous voyaient étaient curieux de ce que vous êtes, vous, aussi curieuse que vous l'étiez de ce qu'ils sont, eux, en
les Nord-Coréens à qui j'ai parlé dans la rue, non, ils n'avaient pas du tout de curiosité, même ils se demandaient parfois pourquoi je leur demandais ce qu'ils étaient en train de manger, ce qu'ils étaient en train de faire. Pour moi, c'était intéressant de savoir, mais ils n'ont pas vraiment
Et niveau guide, par exemple, qui eux ont peut-être un rapport différent parce qu'ils ont plus l'habitude de croiser des étrangers.
Voilà. Eux étaient les plus curieux. C'est vrai qu'on a eu de réels échanges avec mon traducteur et son chef parce qu'on était presque tout le temps ensemble, on mangeait ensemble. Eux posaient énormément de questions sur la France, sur mon métier, mais même ça allait jusqu'à quelle est la taille de ton appartement, comment ça se passe à Paris.
Mais est-ce que vous avez le droit de parler de tout ? Est-ce que vous avez le droit de... C'était des questions de ce genre-là ou pas ?
C'était plutôt mon métier par rapport à la Corée du Nord. Ouais. Qu'est-ce que vous dites sur la Corée du Nord à Radio France ? Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous pensez de notre pays ? Parfois, j'avais un peu l'impression de passer un interrogatoire.
À la question. Ouais. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont si isolés que ça, en fait ? Ou est-ce qu'ils ont quand même, parce que il y a quelques chaînes qui transpirent, notamment aux frontières, il y a Internet qui transpire aussi aux frontières, maintenant les choses sont très différentes, un vrai rideau de fer, ça n'existe plus, donc ils savent qu'ils ont cet isolement-là, ou finalement pas tant que ça ?
Pas tant que ça, dans ce que j'ai pu voir, moi en tout cas, mais encore une fois, c'est vrai que les gens avec qui je parlais dans la rue, il fallait que je fasse très rapidement, parce que je sentais bien qu'au bout de 4-5 minutes, à la fois mon traducteur et la personne que j'interrogeais étaient un peu lassés de mes questions, donc il fallait que je passe à autre chose. Donc non, les personnes que j'ai rencontrées, je n'ai pas vraiment pu discuter de ça avec eux. Par contre, je sais que les témoignages qu'on a des Nord-Coréens qui sont partis au Sud montrent qu'ils disent qu'ils ne savaient pas, quand ils étaient en Corée du Nord, qu'il y avait un monde différent à l'extérieur.
Et autant de choses donc pour eux à apprendre ou réapprendre. Élise Delève, merci beaucoup. Merci de ce voyage que vous avez partagé avec nous dans Un jour dans le monde. Power Hit Radio. BBC News. Al Jazeera. CBS Morning News. France Inter. Public Broadcasting. Le 18-20. Equals more reasons to watch. Un jour dans le monde. La carte blanche des correspondants de France Inter. Tous les jeudis, l'histoire qu'ils ont choisi de nous raconter pour vous raconter leur pays. Bonsoir Beyrouth, bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Fabienne.
Omar, la campagne pour les élections législatives arrive à son terme. Dimanche, les Libanais votent pour renouveler leur parlement. Et choisir un député, pour vous, c'est quelque chose parce que c'est une première depuis 2009. La dernière fois, c'était il y a 9 ans.
Oui, 597 candidats sont en liste, dont 86 femmes. Elles étaient 12 en 2009, c'est inédit au Liban. Autre nouveauté, l'entrée en vigueur de la proportionnelle qui devrait permettre l'arrivée de nouveaux visages issus de la société civile dans ce Parlement libanais qui compte 128 sièges.
Et une campagne, Omar, marquée par des pratiques un peu d'un autre âge quand même.
Oui, il faut savoir qu'au Liban, les candidats payent pour passer à la télévision jusqu'à 5000 euros par minute d'antenne. Oh, 5000 euros, vous avez bien entendu, 200 000 euros pour un débat télévisé, une pratique qui profite évidemment aux plus riches et tout particulièrement aux poids lourds de la politique libanaise qui gouverne sans partage.
Et c'est sans contrôle ça ou pas, Omar ?
Alors, en théorie, il y a une commission. Elle est censée superviser et surveiller ces élections. Mais en réalité, elle n'a aucun pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Sylvana Lakis à démissionner. Sylvana Lakis était la seule représentante de la société civile dans cette commission.
J'ai décidé de démissionner pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette commission n'agit pas en toute indépendance. Elle ne traite pas tous les candidats de manière équitable, et particulièrement les ministres. Vous savez, au Liban, nous avons le Premier ministre, mais aussi 15 autres ministres qui sont candidats à des postes de députés. Et selon les règles de cette commission, nous n'avons pas le droit de les surveiller. Ce n'est pas juste. Au final, ceux qui sont au pouvoir seront élus et tous les candidats issus de la société civile qui n'ont pas les moyens mais qui veulent changer les choses n'y parviendront pas. Ce n'est pas du tout acceptable. Et c'est pour ça que j'ai démissionné.
Et parmi les candidats à surveiller de ce dimanche, tel qu'on l'entendait à l'instant, Omar, il y a ceux du Hezbollah, évidemment, le parti chiite.
Oui, le Hezbollah qui a l'habitude de l'emporter très facilement dans ses bastions, eh bien ce Hezbollah voit d'un très mauvais œil l'entrée en vigueur de la proportionnelle qui pourrait changer la donne. Du coup, les militants du mouvement chiite multiplient les menaces et parfois même les attaques physiques contre les candidats indépendants qui font campagne sur leur terre. Ali El Amin est candidat actuellement sur une liste issue de la société civile à Chakra, dans le sud du Liban, près de la frontière israélienne.
C'était un dimanche. J'étais en train de coller des affiches électorales lorsqu'un homme sur une moto s'est arrêté. Il m'a dit qu'il était membre du Hezbollah avant de me demander d'arrêter de coller mes affiches. J'ai refusé. Puis quelques minutes plus tard, un groupe de 20 à 40 hommes est arrivé et s'est mis à me frapper. En m'attaquant, le Hezbollah a voulu faire passer un message à tous ceux qui s'opposent à lui dans la région. Il ne veut pas d'adversaires politiques dans les zones qu'il contrôle.
Alors, des élections législatives libanaises, Omar, qui auront lieu, on le rappelle, dimanche. Vous nous les ferez vivre, évidemment, sur France Inter. Merci beaucoup, Omar, depuis Beyrouth. Bonsoir, Washington. Bonsoir, Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Grégory, vous voulez nous raconter l'épilogue d'une histoire dont on se souvient bien, le scandale Starbucks. C'était au début du mois d'avril, deux hommes noirs dans un café de Philadelphie qui attendaient simplement un ami avant de passer commande. Les policiers sont arrivés et les ont interpellés sans aucune raison. Tollé, manifestation à Philadelphie. L'histoire, elle est finie, ça se termine comment alors?
Eh bien, d'une manière assez intéressante, je trouve, et c'est pour ça que je voulais vous la raconter ce soir, puisque Rashon Nelson et Dante Robinson, les deux hommes interpellés par la police, ont trouvé un accord avec la mairie de Philadelphie, dont les policiers dépendaient là, où on aurait pu s'attendre à, vous savez, une transaction à coût de milliers, voire de millions de dollars, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Eh bien, les deux hommes ont imaginé une autre solution. En guise de dédommagement, la mairie va leur verser à chacun un dollar symbolique, et surtout, la municipalité s'engage à verser 200 000 dollars à une association qui vient en aide aux lycéens de la ville, des lycéens qui ont un projet de création d'entreprise, en échange de quoi les deux hommes renoncent à poursuivre les policiers et la ville de Philadelphie. Ce sont eux qui ont eu cette idée et Jim Kenney, le maire, les remercie aujourd'hui d'avoir résolu ce dossier, je cite, de manière extrêmement constructive.
Mais pouce en l'air pour ces deux jeunes gens, effectivement. C'est vrai que c'est un épisode étonnant parce que vous vivez aux États-Unis, Grégory, et d'habitude ce genre de choses, ça se règle à grands coups de millions, quoi.
Oui, et c'est pour ça que je voulais saluer le geste de ces deux hommes qui ont eu l'intelligence de ne pas poursuivre la municipalité. En revanche, il y a un deuxième accord passé cette fois avec le groupe Starbucks à l'amiable. Celui-ci est confidentiel. Donc là, on peut imaginer qu'il y a quand même eu une transaction financière avec sans doute à la clé pour les deux victimes une somme assez conséquente.
Alors quand même, d'un mot, et c'est assez intéressant de voir comment Starbucks a géré cette situation depuis le début, Grégory.
Oui, là c'est vraiment de la communication de crise. La vidéo de l'arrestation des deux a été vue des dizaines de milliers de fois. Il y a eu des manifestations devant le café de Philadelphie, les appels au boycott. Donc le groupe a réagi rapidement. Un, le manager du restaurant qui avait appelé la police ne fait plus partie de l'entreprise. Deux, le PDG a rapidement présenté des excuses. Trois, à la fin du mois, le 29 mai, Starbucks va fermer pendant tout un après-midi tous ses établissements aux États-Unis, environ 8000, pour former l'intégralité de son personnel aux questions de discrimination, histoire que ce qui est arrivé à Rashon Nelson et Dante Robinson, je redonne volontairement le nom de ces deux hommes, ne se reproduise plus.
Merci beaucoup Grégory, on en parle sur le site d'Un Jour dans le Monde aussi, vous pouvez retrouver cette histoire. Merci beaucoup, à très vite.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
Et à 18h presque 55, l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, tout est géopolitique avec vous. Où est-ce que vous allez chercher tout ça? Même dans les boulettes de viande suédoise.
Eh bien, tout commence en tout cas par cette info diffusée le week-end dernier sur les réseaux sociaux par le compte officiel du Royaume de Suède. On y lisait l'information suivante. Nos boulettes de viande sont en fait d'origine turque. Les faits sont les faits. La boulette de viande en Suède, c'est le plat national. Hein.
D'accord.
Venait ensuite un peu d'histoire. Le roi de Suède, Charles XII, a ramené la recette de Turquie au début du XVIIIe siècle. D'abord...
Donc la boulette est turque.
La boulette est turque, en fait. D'abord, comme toute bonne communication institutionnelle, celle-là a atteint son but parfaitement. Elle a été reprise dans le monde entier. Pas moyen d'ouvrir un quotidien britannique, états-unien, sud-américain, voire moyen-oriental, sans trouver cet aveu quelque part à la une. Alors évidemment, les plus enthousiastes sont les Turcs, hein, qui depuis une semaine demandent même aux Suédois de rebaptiser leur boulette kofte à la turque. Les médias turcs se sont même précipités dans la capitale de la boulette de viande, qui s'appelait Inegol, ça au nord-ouest de la Turquie, pour recueillir l'avis des cuisiniers locaux. Eh bien, ils sont ravis que leur spécialité ait ainsi pu toucher des terres si septentrionales.
Alors, c'est fascinant et passionnant ce que vous nous racontez, Anthony, mais est-ce qu'on va vraiment passer 4 minutes sur des boulettes de viande?
Kofte, s'il vous plaît.
Oui, kofte.
Ben voilà, pas 4 minutes, mais encore un peu. D'abord, ce n'est pas la seule délicatessen que Charles XII a ramené de Turquie. Il a aussi emporté avec lui quelques graines de café torréfiées et du chou farci, deux autres passions culinaires suédoises. Ensuite, il faut savoir que cette info n'a pas fait que rigoler le monde entier. Elle a aussi entraîné des milliers de commentaires en Suède même, avec cette simple question, mais pourquoi diable le compte officiel de la Suède s'est-il fendu de cet aveu? Or la réponse est finalement assez simple, il y a en Suède, depuis quelques années, une sorte de Kulturkampf, une bataille culturelle autour de l'identité nationale. Certains, notamment à l'extrême droite, la voient pure de toute ingérence étrangère. Pour eux, la Suède, ce sont les vikings, le protestantisme luthérien, une langue rude mais clairement nordique, et une histoire glorieuse de tribus puis de rois conquérants. On y ajoute Ikea et la ceinture de sécurité à trois points pour la modernité et puis aussi l'aquavite.
Alors à gauche, par contre, en revanche plutôt, l'histoire est, j'imagine, très différente.
Et évidemment, à gauche, où l'on professe l'ouverture sur le monde, on aime souligner que le plus national des plats nationaux, la boulette de viande donc, vendue dans tous les Ikea du monde avec un petit drapeau suédois, est donc en fait d'inspiration turque. À gauche, on se délecte lorsqu'en octobre dernier, des archéologues aient mis au jour des vêtements cérémoniels vikings du XIIe siècle sur lesquels sont brodés en écriture koufique, s'il vous plaît, c'est-à-dire en arabe, le nom d'Allah ou celui d'Ali, son gendre. Personne évidemment ne dit que les vikings étaient musulmans, hein. Mais par contre que les fiers combattants nordiques étaient aussi d'habiles commerçants et qu'ils échangeaient avec le fin du fin de l'époque qui se trouvait être arabe et musulman. Enfin, à gauche, on est littéralement comblé lorsqu'à Birka, toujours en Suède, on découvre qu'une tombe de guerriers vikings, richement pourvue en armes et boucliers, est en fait celle d'une guerrière de haut rang. L'image testostéronée des guerriers vikings en prend donc un coup.
Donc, derrière cette guerre des boulettes et des vikings, il y a une véritable inquiétude identitaire.
Voilà ce qu'il fallait comprendre. La Suède est et a toujours été un des pays les plus généreux d'Europe en matière d'asile. En quelques années, Stockholm a accueilli des centaines de milliers de migrants, souvent venus de pays musulmans. En 2015, grosse année de migration, c'était 165 000, c'est-à-dire en proportion de la population, plus que l'Allemagne qui en a accueilli cette année-là près d'1 300 000. Le pays entier en a été secoué et aujourd'hui, eh bien, l'extrême droite est à la hausse. La Suède essaye d'être à la hauteur donc de sa générosité tout en expliquant qu'elle a donc toujours été de culture mêlée, la Suède officielle en tout cas, d'où les boulettes de viande à la turque, mais au fond si suédoise.
Voilà, on mange quand même, rassurez-moi, toujours des boulettes de viande à la turque, et en particulier quand on va monter un meuble apparemment.
Et vous savez combien est-ce qu'il IKEA en distribue chaque année?
Non, mais vous allez me le dire, parce que ça me passionne.
5 millions chaque année dans le monde entier de boulettes suédoises à la viande et à la turque.
Voilà, qu'il faut monter ou pas? Est-ce que c'est en kit la boulette suédoise?
Non, vous avez vraiment pas visité un IKEA depuis très très longtemps.
Ah, non, c'est vrai. Et jamais mangé de boulette, en tout cas chez IKEA, là, je peux vous l'assurer. Anthony Bélanger pour l'édito d'Un jour dans le monde. Merci beaucoup, on se retrouve évidemment très vite.